Comment construire ensemble pour réussir la transition écologique? Une table ronde en partenariat avec Ciment Calcia sur Radio Immo.
Rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, de continuer à être avec nous pour nous écouter. Nous entamons cette seconde table ronde de notre collection que nous avons coproduite avec les Ciments Calcia pour parler de transition énergétique. C'est le sujet du jour, c'est le sujet même planétaire, si on peut dire les choses comme ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est dans ce défi majeur du 21e siècle à aborder, on va dire, le plus sereinement possible, ces défis de construire ensemble la transition énergétique. Alors, comment parler de transition énergétique sans parler de collectif ou d'intelligence même collective? Alors, ça peut sembler de prime abord être un poncif emballé dans du joli papier doré, mais force est de constater qu'il s'agit du défi majeur quand même du 21e siècle, c'est très clair. Et rien ne se fera, chacun dans son coin. D'ailleurs, je fais souvent allusion à un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelait « Le tiers instruit » de Michel Serres, où on parle d'intelligence collective à l'aube du 21e siècle. Alors oui, le gouvernement actuel s'empare du sujet à bras-le-corps en sensibilisant sincèrement toutes les parties prises dans la fabrique de la ville, les problématiques individuelles, le tourbillon effectivement qui accélère nos vies, qui parfois nous rend un peu, peut-être parfois un peu schizophrène. En tant que collectivité, c'est de toute façon ensemble, par la volonté, par l'intelligence collective, que nous réussirons à sortir la tête de l'eau. Les premiers effets nous arrivent, hein, c'est palpable pour tout le monde. 51 degrés au Pakistan, c'est un record incroyable. On est dans un, on voit bien que dans ces transformations environnementales, on est tous impactés. Il n'y a plus de débat aujourd'hui là-dessus. Le réchauffement climatique n'est pas un mauvais rêve, ni même un complot, malgré ce que diront parfois les. On les appelle les climato-sceptiques ou autres. Et nous l'avons évoqué d'ailleurs dans notre précédente table ronde, et d'ailleurs Candide y verrait avec optimisme un formidable levier d'innovation. Effectivement, l'excitation de ce qu'on appelle la tabula rasa, faire table rase pour repenser la société en changeant profondément nos paradigmes. Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. C'est pas moi qui le dis, c'est Nietzsche qui le disait. Voici le chaos partagé collectivement qui est à nos portes, et le bâtiment est sans nul doute l'un des enjeux sociaux et sociétaux les plus importants de cette transition, tant pour le mieux-être des populations que pour les acteurs qui doivent se réinventer. Alors concrètement, et c'est l'idée de notre table ronde, si vous voulez bien, c'est quelles sont les solutions pour mieux construire ensemble les infrastructures du futur. C'est ce qu'on va tenter d'éclaircir avec nos invités pendant ces 45 minutes d'échange. Voilà, un débat d'ouverture en partenariat avec les Ciments Calcia, collection que nous avons construite. Restez avec nous sur Radio Immo, on se retrouve tout de suite.
Comment construire ensemble pour réussir la transition écologique? Une table ronde en partenariat avec Ciments Calcia sur Radio Immo.
Voilà, je suis ravi d'accueillir sur le plateau des professionnels qui vont nous éclairer de leur expertise. Et tout d'abord, merci à Anne-Françoise Jumeau d'être avec nous. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour.
Vous êtes architecte, vous avez été d'ailleurs lauréate du prix 2021 de Femmes Architectes et vous êtes directrice de l'agence Anne-Françoise Jumeau Architecte AFJ. Ah, je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Merci d'être avec nous. Stéphane Delhomo, voilà, notre expert, directeur marketing et commercial de Ciments Calcia, toujours avec nous. Ça va Stéphane?
Très bien, bonjour Sylvain.
Voilà, on est en pleine construction éditoriale. Très très bon contenu, merci en tout cas d'y participer. Et j'ai le plaisir également d'accueillir, avec l'accent du Sud qui le caractérise, Clément Blanc, le directeur général de Caprémib. Bonjour Clément.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, parfaitement.
Voilà. Quelle région?
De Reims, bizarrement.
Ouais,
alors, initialement de Toulouse, mais désormais à Reims, depuis plus de 11 ans maintenant.
Voilà, vous avez emporté le bouclier de Brennus.
Ouais. J'espère surtout qu'on ira le chercher cette année. Encore
merci,
une fois.
Merci, j'ai fait une très belle émission au Stade Toulousain. Une matinale, c'était extraordinaire. Ils ont même essayé de me faire faire du ballon sur le terrain. Quand on m'a vu courir, on a cru que c'était un canard qui traversait le stade. Voilà. Merci en tout cas d'être avec nous pour participer à cette émission. Ce que je vous propose, c'est que justement on fasse une espèce de pitch, comme on le fait habituellement, sur, on va dire, les grands axes de cette table ronde. On a parlé tout à l'heure de millefeuille législatif. On peut même dire... qu'est-ce qu'on a dit? Inflation normative, empilement de normes, etc. On vit vraiment dans un monde où la norme devient la clé. Pour le bien, parfois, et des fois, ça sature un peu. Et effectivement, la RE 2020 et la loi climat résilience qui a été adoptée l'an dernier, en passant par les décrets ZAN, zéro artificialisation nette, le rapport Rebsamen, qui a fait un certain nombre de recommandations, il en a fait 13 exactement, pour saisir en fait l'essence du mieux construire ensemble, c'est ça le projet, il faut désormais maintenant compter sur ces normes qui se veulent de plus en plus contraignantes, et même le moratoire, si je peux m'exprimer ainsi, ou le cadre des dates a été fixé par la loi sur la performance énergétique des bâtiments, qu'ils soient neufs ou anciens. Alors, moi j'ai envie de vous poser tout de suite, pour rentrer dans le débat Stéphane, comment de manière générale ces nouvelles contraintes, encore une fois, vraiment vont faire bouger les lignes ?
Bah. Elles font bouger les lignes. Bon, déjà, elles donnent une trajectoire, elles donnent un cadre. Si je prends la RE 2020, sa particularité par rapport à la RT 2012, c'est qu'elle intègre dans son contenu une dimension qui est une dimension un peu nouvelle. Hein. Donc, elle tient compte dans l'étape de la construction d'une maison, d'un bâtiment, enfin d'un ensemble. Elle tient compte de l'importance de ses émissions en matière de CO2. Et ça, sur la durée de son cycle de vie. Ça, c'est la vraie nouveauté, c'est une vraie transformation. Elle amène en plus un certain nombre de critères non présents par les précédents textes, qui donnent une dimension qui est toute nouvelle, qui est intégrée. On renforce la notion de sobriété des bâtiments. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, après, il y a une prise en compte de la dimension environnementale des bâtiments. Quelle est l'empreinte ? Donc, avec des dimensions qui apparaissent, hein, c'est plus, c'est moins, très concrètement. Et puis, une meilleure anticipation de l'inconfort d'été. Donc, et ces trois critères sont vraiment trois cibles, trois nouveautés mises en relief de la RT 2012. Donc, et puis, elle structure au travers de critères un peu nouveaux, puisqu'elle impose un certain nombre de calculs. Hein. 9 critères répartis sur des critères de performance énergétique, d'une part, et 4 critères sur ce qu'est l'impact en matière de carbone d'émissions des bâtiments sur leur exploitation et leur durée de vie. Ça, c'est une vraie nouveauté.
Oui, c'est une vraie nouveauté. Et puis, on l'avait dit dans la précédente oui. table ronde, mais qui intègre un ensemble de critères ou même d'indicateurs qui fixent finalement, au-delà de ce qui existait dans la RT 2012, une vraie vision, si on une peut dire des choses. Voilà. Une vision avec un calendrier, d'ailleurs.
Avec un calendrier, il y a un agenda, il y a une trajectoire. Ouais, ouais.
Donc on sait, en fait...
Le cadre est assez précis.
Oui, alors, ça peut apparaître comme une contrainte, il faut dire les choses comme ça. Pour certains, ça peut effectivement être une contrainte. Vous avez fait de cette contrainte un avantage certain. Mais du coup, finalement, la partition est écrite. Hein.
Alors aujourd'hui, la partition est écrite, la trajectoire est donnée. Maintenant, c'est quel type d'effort et quelle dynamique on peut mettre en œuvre dans notre propre filière pour atteindre ces trajectoires et donner la possibilité aux architectes, donner la possibilité aux industriels du béton de construire des bâtiments qui vont demain atteindre ces meilleures cibles environnementales.
Oui, c'est extrêmement clair. Bon, justement, chez Calcia, bon, vous êtes dans une industrie qui a été une industrie, on peut le dire, qui a été une industrie aussi polluante à une époque. Donc il y a eu aussi une prise de conscience de l'ensemble du secteur industriel d'opérer SAMU. Fort concerné d'ailleurs, puisque Calcia l'a fait d'ailleurs bien avant qu'on vous l'impose quelque part par des textes, c'est quelque chose que vous aviez déjà bien entamé avec cette recherche environnementale qui a été un peu l'ADN des 20 ou 25 dernières années. Comment ça s'est matérialisé ?
Alors, bon, la RE 2020 aujourd'hui, bon, la RE 2020, son application, c'est début 2022. Donc aujourd'hui, bon, la filière dans sa globalité, puisque la filière béton, elle s'est préoccupée de ce sujet de manière, je dirais, très anticipé, parce que c'est des engagements pris par tout un tas d'intervenants, notre propre groupe, nos partenaires clients ou d'autres entreprises de secteur, elles sont déjà déterminées et elles sont écrites depuis quelques années. Donc les axes et les pistes de progrès, si on peut dire pistes de progrès, elles nous concernent directement, en tant que producteur de ciment. Elle vise à transformer la façon dont on produit le ciment, moderniser nos installations, investir, hein, puisque cette, cette nouvelle donnée traduit des investissements, hein, que ce soit dans notre univers ou dans celui de nos propres clients, hein, très clairement, hein, il faut le dire. Hein, donc, et on met des technologies en place qui visent à réduire nos consommations énergétiques, réduire notre empreinte carbone sur des tonnes de clinker produites. Et puis, au-delà de ce premier niveau de transformation, proposer au marché des ciments de nature un peu distinctive, tout en préservant les performances initiales, tout en préservant la capacité à produire des bétons du passé. Donc, ce qui est un exercice qui amène une approche collaborative avec le marché, avec nos clients. Ce nouveau challenge, on ne saura pas le réussir si on ne se met pas tous autour d'une table. Moi, je pense que cette transformation, c'est un vrai trait d'union pour la profession. Et c'est pour ça que j'ai tendance à plutôt à la qualifier comme une opportunité, plutôt qu'une menace. C'est une façon de se repenser, c'est peut-être une façon de construire différemment.
Et tous les acteurs, tous les parties prenantes de la profession
sont clairement engagées. Sont engagées. Toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, elles ont toutes une feuille de route en la matière, elles ont toutes des engagements. Et ces engagements sont écrits, ils sont dans la politique de l'entreprise, ils sont clarifiés, ils sont communiqués, donc ça c'est essentiel. Après, ça nous conduit aussi à repenser peut-être l'utilisation même du matériau, la conception même du béton, l'utilisation même du béton. Est-ce qu'on utilise le bon béton? Est-ce qu'on le met au bon endroit? Est-ce qu'il ne faut pas repenser la façon dont on bâtit, hein, et on va tendre vers des constructions demain où la mixité des matériaux sera peut-être plus prononcée, le bon choix, la bonne technologie, et en intégrant une dimension qui est une dimension essentielle, puisqu'on parle du cycle de vie d'un bâtiment, ça va jusqu'au moment où on le déconstruira, ce bâtiment. Donc, quel rôle potentiel et quel bénéfice apporté par le béton sur le sujet.
C'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point finalement ce qui était immobile devient presque mobile, puisqu'on parle d'obsolescence des bâtiments, on parle de cycle de vie. C'est pas quelque chose dont la France était habituée, notamment en France, avec un ancrage très fort sur l'architecture. Bien évidemment, je peux pas ne pas citer le contexte haussmannien, mais c'était dans un contexte géopolitique et contemporain très différent, bien évidemment. Mais il faut quand même rappeler des chiffres incroyables, 30 000 immeubles abattus sur 17 années de chantier dans Paris, c'est absolument considérable. Et ce que vous dites est très très juste aujourd'hui, et c'est intéressant parce que tout ça modifie dans la chaîne de valeur, dans les filières métiers, tous, jusqu'à l'agent immobilier qui vend les bâtiments, que ce soit du tertiaire, du retail ou du résidentiel, sa façon de travailler. Anne-François Jumeau, je sais que le mot « ensemble », c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, c'est aussi de votre ADN. Et ça vous tient particulièrement à cœur, parce que vous pensez, vous, l'architecture, le geste de l'architecte, au sein de votre agence. Et si vous me permettez, je me suis permis de citer ce qui est écrit sur votre site. Est-ce que vous me permettez de le dire ?
Bien sûr.
Et je voudrais le dire de la façon, puisque quand on a travaillé cette feuille de route, ce script, on s'est dit on ne peut rien changer à ce que vous avez et ni rien retrancher. C'est presque, j'allais dire, une vision biblique finalement de la vie. Moi j'aime beaucoup le côté abstrait qui précède finalement l'acte de construire, parce que sans théorie, il ne peut pas y avoir de pratique. C'est peut-être l'ancien compagnon du devoir que je suis qui parle quelque part, mais j'aime beaucoup cette idée. Fondée sur une réflexion collective, je vous cite, favorisant la convergence des connaissances, des savoir-faire, des expériences, le travail se distingue toujours aujourd'hui par cet attachement singulier à la transversalité, dont résulte une capacité reconnue à conduire des projets, à orchestrer différentes pensées, à fédérer et coordonner des intentions, des tonalités, fussent-elles contrastées, pour en faire émerger un dessin avec une petite particularité, directif commun. Une altitude anti-ego, alors ça j'adore, je vous le dis, franchement, là j'adore, anti-ego. Ici, c'est avant tout du dialogue que procède le geste architectural, j'allais dire c'est presque un geste d'or, part belle est faite aux échanges, parce que la convergence des sensibilités et des approches permet d'interroger les automatismes, d'ouvrir le champ des possibles, à l'inattendu, dépasser des pensées d'école qui brident parfois l'invention, j'ajouterai là, qui anesthésie parfois même la créativité, envisager la pratique architecturale hors des sentiers battus, et pour se faire revenir à l'acte fondamental de l'architecture, qui est l'appareillage, la réunion d'éléments a priori hétérogènes en une somme cohérente, par l'assemblage, le mixage et sans règles du jeu préétablies. Anne-Françoise Jumeau, architecte, vous vous employez ainsi à déborder les solutions formelles préconçues et les esthétiques éprouvées pour viser, ne pas appliquer ni dupliquer, mais provoquer l'architecture. C'est tout un programme.
Ah, mais depuis le début, c'est comme ça.
Qu'est-ce qui vous guide finalement ? Parce que vous êtes, on a l'impression quand on vous lit justement dans ce faire ensemble, le prisme d'une pensée humaniste, comment faire coïncider finalement les considérations environnementales, les préoccupations humaines, justement selon vous, Anne-Françoise Jumeau.
Bien, c'est toute l'essence même en fait du métier d'architecte, hein, qui lui, par essence, ne se fait pas seul. Seul, on fait pas grand-chose. On ne répétera jamais assez que être architecte, c'est une équipe. C'est une équipe d'agences. C'est des co-traitants qui travaillent avec nous. C'est des industriels. C'est des clients. C'est des utilisateurs. C'est des fournisseurs. Donc, en fait, à tous les moments de la conception et de la réalisation, on travaille avec les autres. Donc, en fait, je crois que pour faire ce métier bien, il faut aimer les autres, en fait. Et c'est fondamentalement de cette façon-là que j'ai engagé ce métier. Et effectivement, on aime aussi les générations futures. Donc là, on rejoint quand même le faire attention pour le futur. Et moi, j'exerce depuis 35 ans hein, ce métier. J'ai commencé à le faire de façon relativement classique. Hein, et puis, très vite, en fait, nous avons créé un collectif qui a perduré pendant 20 ans, il y a 25 ans, qui s'appelait Périphérique Architecte. Et c'était vraiment une structure évolutive, en fait, où nous pratiquions le travail de façon relativement innovante. On partageait le travail, on inventait des règles du jeu entre nous. On réinventait en fait la façon dont on imaginait concevoir un bâtiment. Et ça, c'était aussi fait pour effectivement créer de l'échange, se motiver. On prenait des risques, mais on voulait pas de routine, quoi. Donc l'important, c'était de garder le plaisir. Donc ce collectif, il a pris fin de façon raisonnée il y a 5 ans. Et évidemment, on garde une pratique et une façon de faire, bien sûr, ancrée dans notre exercice. Et dans ce secteur, en fait, si on réfléchit à il y a 10 ans, il y avait déjà ce HQE, il y avait ce taux de qualité environnementale. Donc déjà, on sentait que ça nous arrivait dessus, qu'il allait falloir. Mais alors là, je pense qu'on est passé puissance 10. Hein, depuis 10 ans, c'est passé en puissance 10. Et on n'a plus seulement de la qualité environnementale, mais on a du futur. On a effectivement un temps de vie au bâtiment, une transformation rapide ou en tout cas évidente à envisager. Et les contraintes sont là de plus en plus nombreuses, en fait. Et en fait, on a un métier où on passe son temps à travailler un Rubik's Cube pour que la qualité du bâtiment, sa qualité esthétique, sa qualité technique et technologique et sa qualité, en fait, de devenir soit préservée, quoi. Donc c'est vrai que je pense que j'ai été habituée dans tout cet exercice, en fait, à plusieurs depuis si longtemps. Et à tous les niveaux, en fait, d'intervenants, parce que ce qui est passionnant, c'est de comprendre pourquoi un chercheur dans un laboratoire a besoin de tel outil, pourquoi, effectivement, un enfant a besoin de se relever là, de l'ergonomie. Enfin, on aborde tellement de sujets que je trouve que désormais, la qualité environnementale et le devenir de nos bâtiments, c'est des normes qui arrivent finalement. Pas simplement, mais c'est un exercice en fait qui se poursuit, quoi.
Alors, donc, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait il y a cette phase d'adaptabilité face à un monde qui change ou un monde qui s'accélère. Justement, vous, Clément Blanc, vous qui êtes confronté au terrain, vous êtes au terrain, vous avez la tête dans le guidon tous les jours sur les chantiers. Enfin, vous êtes confronté, vous avez une prise de réalité qui est parfois difficile, dure, et vous y faites face tous les jours. Quel est le regard que vous portez en tant que chef d'entreprise sur ces fameuses transitions individuelles qui vont finalement, on le voit bien, hein, collectivement permettre la transition énergétique?
Alors je le vois de façon très positive, en fait c'est très stimulant. Alors en fait j'ai la chance de diriger un groupe de préfets qui est habitué à faire du sur-mesure où on travaille avec plus de 60 compositions béton différentes. Et du coup, c'est depuis quelques années, nous travaillons sur la décarbonation de nos compositions béton. Donc c'est très positif puisqu'on a une équipe de laboratoire qui maintenant est mobilisée vraiment pour faire progresser nos compositions tout en conservant les caractéristiques intrinsèques du matériau, durabilité, solidité, les caractéristiques mécaniques et chimiques. Ces nouveaux liens nous font travailler différemment. Donc l'avantage que nous avons avec les différents partenaires avec lesquels nous travaillons, qui sont autant nos adjuvantiers, nos cimentiers, que nos fournisseurs d'agrégats et autres entrants de notre industrie, tout ça lié fait qu'on travaille ensemble et on est bien plus fort ensemble. Typiquement pour les nouvelles compositions qui sont des compositions dites bas carbone, ultra bas carbone, nos travailleurs et nos fournisseurs en relation. Pourtant, c'est des liens qui sont alternatifs au ciment, sachant que nous travaillons aussi avec des compositions qui sont déjà liées et déjà bas carbone depuis très longtemps. On travaille typiquement sur la mixité des matériaux aussi depuis une trentaine d'années. Nous faisons des écrans acoustiques en béton de bois, avec des acteurs, avec des architectes, où on essaie de travailler sur des designs un petit peu différents. Et donc justement, la mixité de ces matériaux et l'intégration dans nos process de fabrication permettent toujours d'essayer de s'améliorer pour améliorer désormais le bilan carbone de notre métier.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites finalement, parce que c'est la même question que j'ai posée d'ailleurs à Stéphane, c'est que ce qui pouvait être apparent comme une contrainte normative, et Dieu sait quand même qu'il y a eu une grosse inflation normative, ça on peut le dire, législative, normative, poussée d'ailleurs par un monde contemporain qui veut du résultat. On voit bien qu'on a une population, qu'on a une prise de conscience globale. Vous, ce que vous dites, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, vous avez une espèce de forme de résilience dans votre discours, sur lequel vous dites, non, mais très bien, ça bouge et c'est bon pour nous.
Au contraire, alors...
Ce que vous dites, ça, en fait, quelque part, ça crée cette émulation et cette innovation, entre guillemets, nécessaire pour aller vers plus de frugalité dans votre métier.
Exactement. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on crée une nouvelle composition béton, c'est quand même un petit plaisir pour l'ensemble des équipes, la mettre en œuvre, essayer. On travaille sur différentes typologies de béton, différentes fluidités sur nos bétons. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est un aboutissement, un petit peu une nouvelle composition. On la nomme, on choisit le nom de la composition. Donc c'est vraiment un travail d'équipe déjà en interne et que nous partageons aussi avec nos clients qui... Nos clients ont besoin aussi d'avoir des résultats carbone sur leur chantier. La nouvelle RE 2020 va les pousser et nous y obliger. Mais ça fait quelques années sur lesquelles on travaille dessus. Et on essaie d'être le plus en anticipation possible pour ne pas avoir à la subir. Parce qu'en fait, c'est une contrainte, certes. Oui. Et il y aura des contraintes aussi, c'est ce qu'on disait, au niveau des coûts. Quel va être le coût de la RE 2020? Est-ce que nous pourrons construire? Il y a d'autres paramètres actuels qui font que le coût de la construction risque de monter. Mais si on travaille tous en amont, ensemble, sur l'amélioration de nos compositions, avec nos clients sur l'amélioration des sections de nos produits, avec les architectes sur faire des produits de plus élancés possible, il y a des produits type BFUP, où on arrive à faire des pièces très élancées, c'est des choses qui n'étaient pas possibles avant. Donc il faut l'idée d'une architecte pour élancer le produit, il faut la capacité de nos fournisseurs, nos fournisseurs matériaux qui vont bien avec. Donc cette chaîne complète, c'est vraiment, une fois que les compositions sont sorties, c'est vraiment un aboutissement.
Oui. Alors, c'est un aboutissement.
Je pense que c'est aussi un état d'esprit, quoi. C'est un état d'esprit désormais où on reste ouvert, en fait. Parce que pendant longtemps, en fait, c'était chacun savait faire quelque chose et on essayait de composer avec les parpaings.
Oui.
Et désormais, quand même, les choses, elles se sont ouvertes.
Elles se sont décloisonnées quelque part.
Les coworking, tout ça depuis quand même depuis une dizaine d'années. En fait, on s'aperçoit que...
C'est une porosité de discipline.
Puis en fait, je crois qu'on est tous très contents qu'il se passe des choses comme ça, quoi. Il faut surtout continuer à les ouvrir et continuer à être dynamique avec, quoi. Parce que, effectivement, après, il y a des questions de coûts, il y a des questions de temps à élaborer aussi des formules. Enfin, il y a quand même des contraintes, bien sûr. Oui. On n'est pas chez les bisounours. non, mais on pourrait. Il faut de l'énergie, il faut continuer à travailler.
Vous avez raison, Anne-Françoise, de rappeler qu'il y a une règle de base qui est l'économie. L'économie réelle. Cette économie réelle, c'est qu'il faut que ce soit rentable. Quand c'est rentable, ça favorise l'investissement, ça favorise la recherche, et que quelque part, s'il n'y a pas une économie au centre de tout cela, ça ne peut pas perdurer.
Mais il faut continuer à chercher.
Oui.
Je crois que le bonheur de tout un chacun, c'est de chercher et de chercher ensemble. Oui. Quoi. Et ça, c'est... moi, les recherches que j'ai pu faire avec des industriels, c'est du bonheur pour tout le monde. Quoi.
Mais vous en aviez les moyens. Il faut aussi avoir...
Non, il faut solliciter l'intérêt.
D'accord.
Il faut intéresser, en fait, et puis dire qu'on ne fait pas toujours la même chose, quoi.
C'est
et
clair.
Enfin, moi, je m'oppose vraiment à une architecture trop identique et toujours
en
la
fait,
même chose et tout.
Vous vous opposez aux autoroutes de la pensée, quoi, quelque part.
Ah bah,
vous aimez
les
sentiers battus. Et bah justement, ça nous permet, merci pour la transition, parce que ça nous permet de passer dans la deuxième partie de cette émission. Quel procédé, quel matériau dans tout ça, justement, on va essayer d'exposer des solutions existantes, hein, avec Stéphane, et, vous Clément et Anne-Françoise, sur les points d'amélioration de cette fameuse filière. Alors, il faut mener, et ça je sais que ça vous plaît beaucoup, un chemin réflexif pour balayer les solutions, pour concevoir le bâti. La solution ne réside pas uniquement dans un chemin ou dans une pensée unique, mais bien évidemment de tirer finalement ou de rendre pour eux toutes ces disciplines qui peut-être à une certaine époque ne cohabitaient pas forcément tout ensemble. Et pour parvenir à faire collaborer donc ces principes parfois antagonistes, on appelle parfois des contraintes opposées, il n'existe pas ce genre de solution miracle. La solution réside certainement, comme souvent, comme dans un entre-deux, une espèce de moindre mal qui permettrait de rendre plus collaboratif l'acte de construire. C'est bien le sujet des solutions pour entrer un peu plus dans le détail de cette deuxième partie d'émission. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après.
Comment construire ensemble pour réussir la transition écologique ? Une table ronde en partenariat avec Ciment Calcia sur Radio Immo.
Voilà, de retour sur le plateau, quel procédé, quel matériau, les solutions, Stéphane, la martingale, je sais qu'elle n'existe pas, mais on approche quand même de solutions extrêmement performantes. Pour commencer, quelles solutions bas carbone existent bel et bien aujourd'hui et clairement, est-ce qu'elles sont opérationnelles ?
Alors moi, je suis assez d'accord avec, avec Anne-Françoise, je pense qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit pour être capable d'accepter que ça change. Donc, et bon, parce qu'il y a plusieurs thèmes. Donc, bon, déjà, la construction même et la ville de demain, est-ce que c'est la ville d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on vit dans des bâtiments demain comme on le vit aujourd'hui ? Les bâtiments vont être réversibles, la façon dont on va... dont on va aménager le territoire, ça risque probablement de changer. Donc on s'aperçoit que déjà, il y a toute une phase qui est très amont, hein, qui est très conceptuelle, du coup, qui est par les aménageurs, qui est par l'architecte. Comment on va orienter le bâtiment, déjà premier constat. L'exploitation même de ce bâtiment, tous ces critères qu'on va prendre et qu'on va mettre en œuvre. Une dimension qui est une dimension nouvelle, il faut que ça soit réversible, hein, et voire même intégrer le schéma de déconstruction. Donc on choisit des matériaux pour être capable de déconstruire et pour être capable, lorsqu'on va déconstruire, de les intégrer dans un processus qui lui-même est de l'économie circulaire et qui permettra de refaire probablement du béton. Hein, c'est aussi une des facultés du béton. Hein. Le béton déconstruit, concassé, permet de refaire un béton par la suite. Hein, donc ça, c'est quelque chose d'assez marqué. Après, je pense qu'il faut aller dans un modèle qui vise à travailler l'optimisation, hein, du matériau. La preuve, c'est que la filière béton, elle accepte le fait de vendre moins de ciment et de vendre moins de béton. Hein, donc de construire un peu différemment, de manière peut-être un peu moins volumiste. Bon, et une approche conceptuelle quand même pour une filière, hein, qui a normalement un sens du commerce. De dire la ville de demain et tenir ses meilleures cibles, ses meilleures attentes en matière de qualité de vie, ça va passer par moins de béton, moins de ciment. Et donc là-dessus, on est tous à peu près d'accord, on l'a tous accepté. Je pense qu'il ne faut pas amener de dualité entre les matériaux. Ce n'est pas l'affrontement d'une solution par rapport à une autre, c'est la mixité. Comment on est bien dans un ensemble, comment on est bien dans une construction. Moi, je lis beaucoup d'articles sur cette solution est miraculeuse, celle-ci est dévastatrice, et puis ainsi de suite.
Ben oui.
Je pense que c'est pas tout à fait comme ça, que c'est bien plus complémentaire et qu'il faut juste les intégrer, les comprendre et les mettre dans des situations où ils apportent une vraie qualité. Donc ça me paraît essentiel. Et puis après, il y a une autre dimension aujourd'hui qu'on vit, hein, en tout cas toujours sur la dimension de l'amont. On est très clairement, parfois, peut-être dans une approche de surperformance. Donc est-ce qu'on a la performance appropriée ? Est-ce qu'on ne fait pas trop résistant ? Est-ce qu'on ne fait pas trop performant ? On peut mettre des voiles de béton très épais dans des constructions. Aujourd'hui, peut-être qu'on saurait les faire différemment. Peut-être qu'aujourd'hui, on met des murs, c'est du béton de grosse épaisseur, et il n'y a peut-être pas la nécessité. Donc là, c'est l'architecte, c'est, qui peut le dire. Mais donc ça, c'est sur toute cette dimension très amont. En clair, c'est on repense la construction, quoi. On la repense. Donc on la repense, on la reconfigure un peu. Après, sur ce qui nous concerne, nous, du coup, en tant que producteurs de ciment et producteurs de béton et les échanges collaboratifs et partenariales qu'on peut avoir avec nos clients. Donc, bon, clairement, nous, on transforme notre outil pour produire une tonne de ciment sur plusieurs items. L'outil industriel, clairement, on investit massivement. Hein, donc on va mettre plus de 400-450 millions d'euros en France. Hein, donc, ce qui est un vrai défi hein, pour un groupe international comme le nôtre. Hein, ça veut dire qu'on croit dans le marché français et qu'on croit dans la capacité de la transformation de la France. Donc on ne mettrait pas autant d'argent si c'était peut-être pas le cas. Après, les bétons vont changer dans leur composition, dans leur formulation. Ils vont consommer et ils vont utiliser des ciments qui eux-mêmes vont avoir changé. On va mettre des constituants secondaires, on va utiliser moins, Clément le sait, historiquement on utilisait du ciment pur en préfa, du ciment pur. Aujourd'hui on propose des ciments composés. Dans la composition des ciments, on est en train de la faire évoluer en quantité, premier sujet. Et après, on la fait évoluer en choix de constituants secondaires. Donc ça veut dire qu'on va mettre des matériaux peut-être aujourd'hui non existants, ou des matériaux existants mais peu utilisés. Donc, ce qui fait que ça requalifie l'offre globale proposée à nos clients. Donc, ça. On va aller aussi vers demain un élargissement de l'offre, mais du coup, il faut aussi que le cadre normatif soit adapté hein, pour qu'on puisse proposer ces nouveaux ciments donc, très auprès de nos partenaires. Après, on va intégrer des matériaux biosourcés dans la conception de la préfa, la conception du béton, parce que c'est le sens de l'histoire. Et tout ça pour tendre à, on va vers une cible donnée, hein, qui est de dire, tendre vers la neutralité carbone d'un mètre cube de béton produit à un horizon temporel qui est de 2050. En tout cas, il y a des cibles qui sont inscrites. Moi, je pars du principe, tant qu'on n'a pas écrit quelque chose, on ne voit pas le sens. Donc aujourd'hui, on est tous... Nous, on s'est fixé une feuille de route, moins 30% de nos émissions de CO2 à horizon 2025. Derrière 2030, il y a une autre cible, et puis ainsi de suite. Donc, mais c'est balisé.
Oui, je crois que
l'Aéro 2020, c'est peut-être ça qu'elle a un peu amené.
Oui, elle vous a donné un chemin balisé elle a donné, avec des repères dans le temps qui vous permettent d'œuvrer.
Elle a donné un espèce de code de conduite collectif. Et aujourd'hui, quand on en parle, tout le monde parle de la même chose. Quoi. Donc avant, on était très individualisés. On avait nos propres initiatives. Et quand vous aviez eu cette initiative de manière très anticipée, quand vous alliez en parler ou quand vous la présentiez, elle n'avait pas la résonance. On vous dit, d'accord, c'est très bien, c'est super, mais en fait, j'ai pas besoin de ça. Quoi.
Ah oui, bien sûr.
J'ai pas besoin de ça.
Bien sûr.
Aujourd'hui, tout le monde dit.
Il n'y a plus de débat là-dessus.
Aujourd'hui, il n'y a plus de débat et aujourd'hui, il y a une accélération. Donc, il y a une accélération.
Enfin, j'aimerais bien être déjà dans 10 ans, moi. Parce que vraiment, c'est quand même dur sur le chantier. Et puis, effectivement, on parle beaucoup de béton. Enfin, excusez-moi, je rebondis, mais nous, architectes, on se retrouve avec ces problématiques liées à l'isolant, à la.
C'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire.
On focalise sur le matériau. À la terre cuite. Nous, on a ça dans tous les secteurs et on les assemble tous jusqu'à au second œuvre, où effectivement toute la chaîne en fait, des entreprises doit aussi se mettre en bataille pour œuvrer tous ensemble.
Et
on n'est pas encore tout à fait dans un modus vivendi très souple encore.
La coordination n'est pas totale parce que c'est vrai que moi je vois beaucoup d'articles. Alors c'est vrai qu'on est une industrie présente, visible. Donc on dit le béton.
Mais oui.
Après, le béton, c'est un élément d'eux. Hein, quand vous regardez Euro 2020 et quand vous prenez les postes, gros œuvre, second œuvre, il faut juste ne pas oublier, il y a la climatisation, il y a les menuiseries, il y a les moquettes, et tout le monde a un rôle à jouer. Donc ne faisons pas porter à notre filière, à notre industrie.
Oui, comme c'est trop souvent.
Ne nous donnons pas un rôle qui n'est pas celui qu'on a.
Là on retrouve le ensemble. Je veux dire, on empile en fait aussi les qualités de chacun. Moi je me retrouve au jour d'aujourd'hui à construire des bâtiments justement avec des matériaux mixtes, c'est-à-dire une partie en béton, une partie en terre cuite, etc. Puis on empile pour les qualités de chacun et ce qu'ils apportent réellement à la qualité de l'ensemble de l'ouvrage.
Oui, vous avez raison, parce qu'en fait, il n'y a pas d'exclusive dans ce combat de matériaux. Justement, ces données qui sont à la source, dans la conception même du projet, comment vous les intégrez, Clément ? Comment vous intégrez toutes ces notions ? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez beaucoup innové. D'ailleurs, vous travaillez perpétuellement dans la recherche et le développement. Mais comment, en pratique, vous les avez intégrés ?
Alors moi, tous les souvenirs des affaires importantes sur lesquelles on a traité, souvent les plus techniques, toutes celles qui ont été réussies, c'est celles avec qui on a travaillé le plus en amont possible avec les architectes, avec nos clients, et qui nous ont permis de trouver des solutions, parce que tout seul, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que nous, on a nos propres idées, c'est ce qu'on disait. C'est vrai qu'individuellement, on va se dire, on va faire le béton le plus costaud, mais est-ce qu'il est utile ou pas à ce moment-là ? Donc on est content d'avoir un béton qui est performant. Mais le fait de travailler en groupe et avec différents métiers, mais nous permet de tous nous améliorer. Typiquement sur la conception ou l'intégration et la mixité des matériaux, qui nous, depuis, comme je disais, depuis 30 ans, on fait des écrans acoustiques qui allient et les copeaux de bois et du béton standard. Mais ça permet de faire des produits qui ont des qualités intrinsèques et des performances acoustiques qui sont très bonnes, sachant qu'il faut quand même oser à un moment donné dire on va mélanger le béton et le bois.
Oui.
Mais ça, et les gens ne le savent pas, mais ça fait 30 ans qu'on le fait. Et les gens se disent c'est le bois contre.
C'est tout à fait ça.
De temps en temps, c'est le bois contre le béton. Alors le vrai sujet, c'est que pour les non-initiés, le béton a parfois une mauvaise image. Et moi, bon, ça fait 18 ans que je suis dans ce métier. Et quand on voit ce qu'on est capable de faire avec nos bétons, et de façon esthétique et de façon mécanique, on arrive à avoir des très belles choses.
Justement, je vais compléter ma question avec vous, Clément. L'impact sur l'utilisation de ces produits, procédé qu'on va bien éco-friendly, hein, comme on dit, sur l'économie, c'est quand même assez complexe. Hein. Est-ce que ça coûte davantage ? Est-ce que c'est compatible avec la notion de construire abordable ? Parce que, in fine, on l'a dit tout à l'heure, hein, on l'a dit, il y a une économie. Il y a un coût des matériaux. Puis je vais vous dire, coût des matériaux, en ce moment, quand je parle de coût des matériaux, ou de l'énergie, ça fait écho, quoi, hein, c'est palpable.
Alors bien sûr, alors, il ne faut pas se mentir, il y a quand même des coûts. Et alors je pense, plus on va travailler en amont dessus, plus on va gagner du temps à terme, parce que le fait de démocratiser ces solutions, il y a une part, il y a deux types d'investissements, les investissements matériels, des ponts de levage pour nous, des centrales à béton, et il y a aussi tous les investissements immatériels qui sont ce développement au laboratoire essentiellement, où on mobilise des énergies humaines qui permettent de faire ces essais pour qualifier les bétons.
Et ça représente des investissements non négligeables.
Hein. Ça représente des investissements qui sont non négligeables. Plus on les fait en amont, plus on va les démocratiser. Voilà. Et plus ça va permettre de réduire les coûts. Il y a des solutions nouvelles sur des liens qui existent où évidemment il faut un peu se payer la R&D au démarrage. Mais une fois qu'elle est là et que les bétons sont éprouvés, on a les solutions qu'on est capable de proposer à nos clients. Donc oui, il y a un coût, certes, initial. Mais plus on va utiliser ces nouveaux bétons et ces nouveaux liens et ces nouveaux procédés, plus on y gagnera tous.
Vous l'avez rappelé, moi j'aime beaucoup le mot de démocratisation, de popularisation dans le bon sens de terme, parce que c'est justement d'appliquer des process industriels qui permettent effectivement d'élaborer à la source de toute innovation. On a des coûts très conséquents. Bon, moi j'ai l'âge d'une génération où j'ai vu arriver un magnétoscope la première fois de ma vie, ça coûtait très très cher. Voilà, y compris les lecteurs de disques, etc. Et après, à un moment donné, on a des process industriels qui permettent de le faire. Mais tout ça, ce sont des progrès, finalement, auxquels vous souscrivez. Alors justement, dans cette transition-là, il faut gérer cette nécessité de la mixité des matériaux. Vous l'avez rappelé hein, tout à l'heure, dans le process de construction globale. Et qui s'en porte garant, justement, de tout cela, Anne-Françoise ?
Eh bien, c'est un peu toute la chaîne, quoi, parce qu'on a chacun nos responsabilités à chacun de nos niveaux d'engagement.
Mmh. Parce qu'on voit bien mais que néanmoins, l'architecte, c'est un peu le pivot central.
Ben oui, en général, voilà. On est un peu chef d'orchestre, quoi. On va appeler L1, on va...
En fait, vous travaillez déjà en mode BIM avant le BIM tel qu'on en parle.
Oui, ah, le BIM, c'est une autre histoire. Après, il y a une chose très importante, c'est quand même que tout l'acteur de la commande publique, eux, sont poussés aussi avec une demande et une exigence. Parce qu'il y a des lois désormais, il y a des demandes et tout ça s'inscrit aussi dans leur process. Et du coup, tout ça, qui en est garant, c'est que nous, on a des clients maintenant qui ont besoin que ce soit réalisé comme ça et qu'ils iront au bout avec nous. Et en commande publique, c'est vraiment un accompagnement qui ira jusqu'au bout, quoi. Et ça aide aussi à avancer dans le bien faire pour que on lâche pas un acteur sur la route, quoi. Donc et puis quand même au bout, il y a des certifications, il y a des homologations, il y a quand même des dossiers en fait à remplir où il faut que toutes les cases soient bien cochées au bon endroit, parce que sinon oui, le résultat il est pas là, quoi. Donc c'est une surveillance en fait effectivement qu'on a du début à la fin, et dans un contexte désormais où on va tous ensemble. Et je pense qu'il faut pas oublier de réactiver toutes les énergies à tous les niveaux, parce que c'est quand même pas hyper simple. C'est à la fois un plaisir, c'est joyeux, c'est effectivement, on se dit qu'il faut résoudre, parce qu'on est quand même dans des problèmes à résoudre. On a le problème de la transformation énergétique qui doit être résolu. Donc on est en charge quand même d'un gros travail. Et effectivement, tant qu'on pourra le faire ensemble, à chacun notre niveau, c'est fondamental pour moi.
Alors justement, comment Calcia peut participer à cet effort ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose finalement de contre-productif ? Parce que tout ça, c'est des efforts, c'est des investissements. Comment vous arrivez à participer justement dans cette chaîne ininterrompue finalement qui est en train de s'organiser, d'être de plus en plus poreuse ?
Bah, nous, on est un producteur de matières premières qui est utilisé pour faire des solutions béton. Donc, après, les solutions béton, c'est la solution béton, c'est moi, je pense qu'il faut raisonner en solutions constructives et en fonctionnalités qu'on propose.
Ah, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Donc, c'est un changement de vision, quoi. Je veux dire, voilà.
Oui, mais bon, c'est du ciment posé par terre avec un peu d'eau, ça va pas faire grand chose si c'est pas mis dans une pièce préfa ou si c'est pas mis pour faire autre chose.
Non, non, mais
ou si ça pas, oui. S'il y a pas une forme qui a été dessinée par un architecte. Donc là, il faut vraiment raisonner en termes de fonctionnalité. C'est un matériau qui est capable de faire énormément de choses. Je suis assez d'accord. Bon, il est capable d'être coulé en place. Il est capable de donner des géométries qui sont quand même assez exceptionnelles. Donc, il y a assez peu de limites quand même dans ce qu'on est capable de faire avec le matériau. Donc, pour peu qu'on lui donne toute cette créativité et toute cette liberté un peu, et puis parfois cette prise de risque sûrement. Donc il faut raisonner fonctionnalité. Je pense que ce matériau, il a cette dimension, OK, on fait des efforts sur la réduction de l'empreinte carbone, premier sujet. Après, il y a sûrement aussi, dans cette nouvelle façon de construire, cette nouvelle façon de bâtir et d'aménager le territoire, le béton, on peut faire des fonctionnalités, on peut faire des bétons dépolluants, on peut faire des bétons signalétiques, on peut faire des bétons qui gèrent les influences d'eau. On peut lui donner quand même une position aujourd'hui qui n'est pas forcément celle prise, qui n'est pas forcément celle connue. Donc ce gros projet amène l'intégralité de la filière à se repenser, quoi. Et comme à chaque fois, peut-être, alors on peut le dire instantanément, est-ce que ce n'est pas une fragilité ? Mais à chaque fois qu'on est fragile, fébrile, si on a un peu d'optimisme et qu'on est un peu déterminé, on se dit, oui, mais d'accord, mais est-ce que... Moi, aujourd'hui, je vois quand même des applications où la mixité des matériaux permet, lorsqu'on fait un béton hybride... Alors, quand je dis béton hybride, béton hybride, c'est un panneau de béton avec un panneau de bois, par exemple.
On peut mettre du bois et du béton,
au début, on se disait, mais tout ça, ça va nous mettre en difficulté. Et puis aujourd'hui, en clair, le comble, c'est qu'on arrive à mettre des planchers hybrides dans des bâtiments en bois, quoi. Chose qu'on ne faisait pas il y a quelques temps. Parce qu'on répond à la réglementation incendie, parce qu'on répond aux épaisseurs, parce que mine de rien, quoi qu'on dise, vous faites un plancher bois, vous êtes sur des épaisseurs qui sont significatives, vous faites 5-6 étages.
Le bois tout seul, c'est difficile.
Le bois tout seul, c'est excessivement difficile.
Moi, j'aime bien que le bois il soit avec autre chose.
Non, mais voilà, mais du coup la créativité de notre filière.
Ah oui.
Et l'intelligence, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'intelligence. Il y a de la compétence, il y a des équipements qui sont quand même qui sont précis. On est quand même... ce sont des métiers d'ingénieurs, c'est des métiers de process. Donc il y a forcément de la matière grise, quoi, c'est le cas de le dire. Mais et aujourd'hui, cette fragilité, elle se transforme par de l'innovation qui amène à faire un plancher béton dans un immeuble en bois. Sincèrement, si ça, c'est en zone de risque... Je vois plutôt ça comme un champ d'opportunité.
Ben oui, bien sûr.
Et voilà, je pense qu'il faut, l'appréhender de cette façon-là. Il faut le faire de manière collective. Nous, on développe un service, on développe de nouveaux ciments. On a renforcé notre assistance technique. On met des moyens d'assistance aussi pour aller chez nos clients. Parce qu'on ne saura pas réussir cette transformation si on le fait chacun de notre côté.
Mais alors, c'est ce que vous dites est très juste, et ça me permet de faire la transition vers la troisième partie, parce que, encore une fois, on vient vers cette intelligence collective, c'est-à-dire tout ce jus de cerveau, si je peux me permettre, qui est mis à profit, qui est souvent catalysé, entre guillemets, par parfois la nécessité. Je m'explique, quand je dis nécessité, c'est on voit bien parfois des industries qui se sentent peut-être un peu en danger ou fébriles, et donc, quelque part, cette frugalité, crée cette urgence de nécessité. Et c'est vrai que quand on est dans une situation où ça rentre tout seul, je caricature un peu, ça anesthésie un peu parfois cette capacité créative, comme quoi dans la nature humaine, il y a quelque chose qui est de l'ordre du manque qui favorise l'émergence de nouvelles idées. Justement, alors on a bien compris hein, que les acteurs du bâti intègrent à tous ces niveaux cette équation, cette nouvelle donne. On va travailler spécifiquement donc, justement le béton, qui est quand même l'élément constitutif incontournable du bâti. Alors, quelle réponse collective pourrait faire un pas de plus vers des grands enjeux écologiques, qui maltraitent parfois un peu, il faut le dire clairement, la filière. Et donc, la réponse que je vous propose, c'est qu'on passe cette dernière partie, ces quelques minutes qui nous restent, justement à définir un cadre précis pour ceux qui nous écoutent. On se retrouve tout de suite.
Comment construire ensemble pour réussir la transition écologique ? Une table ronde en partenariat avec Ciment Calcia sur Radio Immo.
Moi, ce que je vous propose, Stéphane, c'est qu'on fasse une petite synthèse, justement, pour cela. Vous avez dit la filière a su revoir sa copie et limiter son impact carbone. On est d'accord là-dessus ?
Oui.
Concrètement, si on devait établir les points, quels sont les points qui sont, on va dire, acquis ? Est-ce qu'il reste à faire ?
Les points acquis, c'est... Je pense que les trajectoires, elles sont connues et aujourd'hui, elles sont appropriées par tous les acteurs. Premier sujet, je n'ai pas aujourd'hui un client qui n'a pas intégré dans sa politique générale cette dimension. Donc ça, c'est un acte fort.
Là, c'est clair.
Nous, on le fait, nos clients le font, le groupe Caprémib l'a fait de son côté. Donc ça, c'est quand même un signe assez déterminé. Après, je pense que ça stimule la capacité d'innovation.
Oui, absolument. Voilà. Oui, clairement. Voilà.
Moi, je pense que demain, on verra des nouveaux matériaux et de nouvelles solutions béton qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, je suis assez convaincu de ça.
Et à une vitesse dont on ne mesure pas à quel point la vélocité est importante dans ce...
Alors, ça s'accélère aussi pour des raisons qui sont des raisons très simples. Ne perdons pas de vue que le CO2, ça coûte. Et ne perdons pas de vue que le CO2, c'est un impact économique. Et que demain, il faut qu'on mette tous nos meilleurs efforts possibles parce que c'est absolument nécessaire. Donc moi, je pense que ça s'est fait. L'autre dimension qui est difficile, hein, donc, c'est d'accepter de moins vendre, mais de moins vendre pour mieux ou pour différemment. Donc ça, c'est aussi un acte décisif, hein, c'est un acte important. Donc, et puis il y a une autre partie qui est, parce que ça, c'est la première face. Donc là, on travaille sur la matière première, on travaille sur comment je fais des bétons différents, comment j'innove, comment je mets du bois, comment je mets d'autres matériaux. Dans des solutions béton qui sont des solutions production hors site, hein. C'est une composante aussi importante.
Hein. Oui, c'est important.
C'est important. Oui. Le fait de pouvoir construire des pièces hors site dans un schéma d'industrie, de modélisation, d'approche de productivité, c'est un atout.
Un impact sur la logistique, parce que c'est mieux en logistique, ça a un impact sur l'environnement.
C'est ça.
En fait, c'est bénéfique à tous les étages, hein, Clément.
Alors moi, je voulais parler juste, quand on parle de ces matériaux et des oppositions, au contraire, sur les chantiers à structure bois, des planches béton, parce que l'avantage, le béton, c'est lourd. Donc ça a l'avantage et l'inconvénient de son inertie. L'inertie fait qu'on parle du confort d'été pour la RE2020, mais le béton apporte cette inertie. On a tous l'image de dire c'est des vieux murs en pierre de 60, dans cette maison il fait toujours frais.
Oui, oui.
Plutôt que de prendre la clim.
Il faut voir tout ça. Oui, non, mais comme quoi, à une époque, il n'y a pas si lointaine, on savait,
exactement.
On avait intégré ces notions.
Alors maintenant,
on a presque l'impression qu'on revient à des fondamentaux.
On est dans la rationalisation, ce qui, pour des problèmes économiques, ce qui est compréhensible aussi. Mm-hmm. L'avantage aussi de l'inertie du béton, c'est que ça ne voyage pas beaucoup. Nous, tous nos fournisseurs sont des locaux. Quand on parle de 200 km, on est déjà pratiquement au bout de notre zone de chalandise, parce que commercialement, après, c'est plus acceptable.
Il y a
un maillage, il y a près de 800 usines de préfab en France, avec des tailles plus ou moins différentes. Mmh. Ce qui fait qu'on a tous les clients partout en France ont des fournisseurs potentiels locaux, donc ça, c'est l'avantage. Donc et c'est oui. à la fois son propre poids qui l'empêche de voyager beaucoup, donc ça, c'est à mieux, parce que les voyages, on sait comment ça fonctionne.
Oui, c'est vrai que par nature, vous êtes déjà non délocalisable.
Exactement. C'est un ancrage territorial très fort. Hein,
ouais. Non, parce qu'un territoire, ça vit de la taxe foncière, ça vit de la taxe d'habitation, plus maintenant, hein. Ça vit de la taxe professionnelle, et vous créez de l'emploi local. Enfin, c'est bien de le rappeler, quand même.
Hein. Bien sûr, voilà. Et maillé, et souvent en rural, parce que...
Absolument.
les entreprises. Enfin, nos entreprises sont très rarement en milieu urbain.
Oui. Donc, c'est les employeurs. Et je peux vous dire que vos entreprises, vous, justement, vous revitalisez des cœurs de ville, vous revitalisez des petites villes moyennes, justement, et je trouve ça formidable. Voilà. Et j'essaie bien de le rappeler à ceux qui nous gouvernent, parfois.
Et donc, on parlait des adaptations au niveau des contraintes normatives. On a l'RE 2020 qui est une nouvelle norme pour le bâtiment. Mm-hmm. En parallèle, nos métiers, notre fédération, notre centre de technique, ont travaillé sur la NF 206. Qui est la nouvelle norme béton, qui dès juillet va permettre de rentrer plus de liens alternatifs, plus de béton recyclé. La semaine prochaine, on va faire des essais sur notre site avec des granulats recyclés pour les validations des essais au feu. Donc voilà, tout ça, c'est un processus qui s'est mis sur l'ensemble de la filière métier et nos centres techniques qui sont support sur ces sujets-là.
Alors justement, Anne-Françoise, quand vous entendez finalement cette initiative, les espoirs finalement d'une filière qu'on peut dire en mutation, est-ce que ça... Vous êtes quelqu'un de très convaincu, on sent que l'accent de la passion précède aussi par aussi votre pensée. Moi, je trouve ça jubilatoire quand je vous écoute. Est-ce que ça encourage vos convictions, voilà, de façon, votre façon d'appréhender la question écologique que vous avez déjà bien entendu beaucoup abordée?
Ben, je peux que répondre, bien sûr, dans le sens où là, ce que j'entends en fait qui se passe, c'était ce qu'on aurait bien aimé déjà avoir il y a 10 ans. Donc en fait moi je disais tout à l'heure, j'ai hâte d'être dans 10 ans parce que je sens que ça va très vite et je trouve que c'est très très important qu'il y ait ce bouillonnement et puis c'est beaucoup plus motivant aussi je pense que c'est aussi l'état d'esprit en fait désormais des échanges entre les différents acteurs. Et puis aussi bien sûr les convictions elles sont là parce que quand on voit les jeunes adultes au jour d'aujourd'hui qui doutent mais énormément de tellement de choses parce qu'effectivement ils ne savent pas eux ce qu'ils vont vivre dans le futur. C'est notre devoir absolument de travailler comme ça quoi. Moi ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, j'ai envie de leur redonner espoir quoi. C'est pas possible quoi. Il faut pas laisser le cycle effectivement de climatique prendre le dessus quoi. Il faut vraiment que on se réinvente tous quoi.
Gardons cette énergie justement et je vais vous prendre au dépourvu pour dire les choses. Je vais vous demander il est temps de nous quitter, mais je vais vous demander de dire un adjectif ou un mot pour de conclusion justement qui vous viendra à l'esprit spontanément, voilà, sans préparation, pour clôturer cette émission dans laquelle, et je suis très heureux d'y avoir participé, il y a beaucoup de choses positives dans le bon sens du terme. On va commencer par vous, Stéphane.
Alors moi, je dirais que nous, en fait, ce qu'il faut, c'est du sens et une vision. Et nous, toutes nos actions en la matière, alors j'avais pas du tout prévu de dire ça, Sylvain, mais
c'est ça qui me plaît beaucoup.
J'avais pas du tout prévu de dire ça, mais nous, toutes nos initiatives pour notre groupe en France, on les fait toutes porter par une marque qui s'appelle Visionnaire. Et clairement, je pense qu'il faut vraiment donner du sens, il faut donner du sens aux équipes, il faut donner du sens au marché. C'est un excellent levier de transformation, y compris managérial. Parce que c'est un projet qui peut... Et je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a notre responsabilité, c'est bien de faire tout ce qu'il faut pour que demain, on se sente dans des lieux d'habitation qui soient des lieux qui répondent aux besoins. Quoi.
Absolument. Sens et vision et visionnaire. Je félicite. Je crois qu'il y a des gens marketing qui sont exceptionnellement doués. J'aime beaucoup cette image. Clément.
Alors moi, je dirais mixité des matériaux, d'une certaine façon, surtout ne pas les opposer, parce qu'on a besoin tous les uns des autres. Et moi, je parle un peu de futur. Je dirais, j'ai deux enfants qui ont 5 et 10 ans. Je veux pas qu'un jour, ils me disent « Papa, ton industrie, elle est polluante ». Je dis « Il y a eu des choses qui ont été faites. Voilà ce à quoi on est arrivé. » Et je voudrais surtout dire que le béton a un futur lointain devant lui, parce qu'on aura toujours besoin de ce matériau.
J'aime beaucoup le mot mixité aussi. Je le retiens. Anne-Françoise.
Eh bien, moi, qui suis une amoureuse de la matière, j'aime beaucoup les matériaux, j'aime beaucoup la matière, donc le béton y compris, mais j'aime la qualité de chacune des matières. Hein, et vraiment, je pense qu'elles ont tout à apporter et qu'il faut continuer à travailler tous ensemble.
Voilà, c'est le mot ensemble que je retiens, effectivement, qui est un peu la trame de vos trucs. Finalement, si on veut mettre du sens dans sa vie, pour avoir une vision, quelque part, encore faut-il réunir toutes les disciplines et avoir cet esprit de mixité, dont vous avez dit, pour que justement, on ait effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, cet amour des matériaux, cet amour du geste, qui permet finalement de dire deux choses. On peut avoir la tête dans les étoiles et avoir une vision d'avenir tout en reposant sur des fondamentaux, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, il fut un temps où notre humanité savait construire effectivement sur des choses naturelles. On a presque l'impression, à l'aune d'une technologie extraordinaire, qu'on redécouvre aussi certains fondamentaux. Et l'action collective d'une ville, parce que la première ville a été construite par les Sumériens, eh bien, c'est de réinventer le vivre ensemble. Moi, je trouve ça formidable. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, vraiment. Merci Anne-Françoise Jumeau. Je rappelle aussi que vous êtes donc à la tête de votre propre agence d'architecture. Je vais le dire correctement, AFJA. On peut vous retrouver sur Internet. Alors, moi, j'aime beaucoup. Alors, allez sur le site Internet, vous allez voir, il y a une vision lyrique hein, de l'architecture, presque onirique.
Mais tout est réel, hein. Tout est constructible.
Mais une pensée a une portée, c'est une idée, une pensée qui devient un projet concret. C'est ce que j'aime beaucoup aussi dans votre métier. Merci en tout cas d'être passé par le plateau sur cette table ronde.
Merci
vraiment à Clément Blanc. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Capremib. Merci. Soyez sympa, ne perdez pas cet accent.
Je vais essayer, puis pour l'instant,
ça tient. Moi, je suis un fan de rugby, donc voilà, ne perdez pas cet accent. Même effectivement, si vous êtes à Reims, ne le perdez pas. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Et puisque je salue chez vous, Clément, c'est qu'effectivement, vous ne vous arrêtez pas sur vos acquis. Vous êtes en constante évolution et en constante émulation. Je pense que c'est aussi l'ADN d'une entreprise extrêmement saine. Merci Stéphane Delhomme, toujours le directeur marketing et commercial de Ciment Calcia, de nous avoir apporté votre expertise. J'espère qu'on vous a donné des clés de compréhension, des clés de lisibilité. Likez, commentez. Le replay du podcast est bien sûr disponible sur les plateformes d'écoute. On se retrouve bientôt pour une prochaine table ronde sur cette collection pour vous encourager finalement à ouvrir votre esprit et à ne pas avoir d'exclusives comme c'est parfois trop souvent le cas. En tout cas, on était ravis de partager ce moment avec vous. À très vite.
Comment construire ensemble pour réussir la transition écologique? Une table ronde en partenariat avec Ciment Calcia sur Radio Immo.